Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministre de la Santé encourage les gens à donner du sang. Les facteurs culturels dominent le tourisme en Indonésie. L'exposition Archipel attire l'attention au festival Europalia. Le Forum du Roi, du Sultan et de la Reine organisera la 5e réunion nationale. Et enfin, le ministère des Travaux publics et du Logement a élargi la coopération des infrastructures avec le Timor-Leste. Voici le journal complet. La ministre de la Santé, Nila Mulook, a encouragé les gens à donner du sang. C'est ce qu'a affirmé la ministre Nila Mulook dans son discours lors de la commémoration de la Journée mondiale du don de sang 2017 avec le thème « Donne du sang, donne maintenant, donne souvent » mardi à Jakarta. La ministre Nila Mulook a souligné l'importance d'éduquer les gens sur l'importance du sang pour la vie des gens.
Darah ini bukan suatu bahan yang bisa kita buat. Ini adalah
suatu. Le sang n'est pas un matériau que nous pouvons fabriquer. C'est un matériau biologique produit par notre propre corps. C'est le problème. Rien ne peut faire du sang. Et c'est le sang que nous avons besoin. Nous remercions les donateurs. Deuxièmement, nous sensibilisons le public à l'importance d'être un donateur. Ces deux points peuvent être dignes de notre appréciation dans la commémoration des donneurs de sang. Selon la norme de l'Organisation mondiale de la santé, la demande minimale de sang en Indonésie est d'environ 5,1 millions de sacs de sang par an, soit environ 2% de la population d'Indonésie. Bien que la production de sang et ses composants atteignent actuellement 4,1 millions de sacs de 3,4 millions de dons, 90% du montant provient du don volontaire. En ce qui concerne cela, la ministre de la Santé, Nila Mulook, a expliqué que le gouvernement a mis en place un programme de coopération entre le centre de santé communautaire ou Puskesmas, l'unité de transfusion sanguine UTD et l'hôpital dans le service de sang afin de réduire le taux de mortalité maternelle. Le programme a été mis en place pour assurer la disponibilité d'un sang suffisant pour les femmes enceintes et l'accouchement. À l'heure actuelle, 2394 centres de santé communautaire dans 123 bureaux de santé de résidence et de ville ont signé un protocole d'entente avec UTD et l'hôpital. Le personnel spécial du ministère des Affaires multiculturelles du ministère indonésien du tourisme, Hari Untoro Drajat, mardi à Jakarta, a déclaré qu'il y avait maintenant un changement dans l'intérêt des touristes étrangers de venir en Indonésie par rapport à l'époque coloniale. Selon lui, le changement est actuellement influencé par le fort potentiel culturel offert par l'Indonésie aux gens internationaux, de sorte que le tourisme est bien le grand facteur qui contribue à l'intérêt élevé des étrangers de venir en Indonésie.
Karena pariwisata adalah promosi ke depan. Nah, promosi kita apa? Tentu bukan hanya fisik.
Parce que le tourisme est une promotion à venir. Quelle est notre promotion? Certainement pas seulement physique, mais la valeur. Il existe un événement existant. Il y a trois choses dans le tourisme, à savoir l'attrait de l'attraction et l'accessibilité, les attractions et commodités, bâtiments patrimoniaux qui sont devenus une attraction touristique. Les gens venaient en Indonésie pour nos épices, mais maintenant 60% de leur présence en région de tourisme, du palais et de la culture existante. Sur la base des données du ministère du Tourisme, le plus grand secteur du tourisme était basé sur le potentiel culturel, suivi de la beauté naturelle et des richesses naturelles. Le potentiel culturel actuellement a été développé au tourisme du patrimoine culturel et historique, le tourisme religieux, les magasins et les tourismes culinaires, les tourismes de ville et de village. En outre, le potentiel naturel a été développé aux produits du tourisme marin, l'écologie et le tourisme d'aventure. Pendant ce temps, le tourisme artistique et culturel a été développé dans le tourisme de maïs ou par la mise en œuvre du forum et d'exposition internationale, le sport et le tourisme intégré. L'Indonésie est le pays invité au festival culturel et artistique prestigieux au festival Europalia, qui aura lieu du 10 octobre 2017 au 21 janvier 2018 dans les 8 pays européens. Ce festival devient un espace de diplomatie culturelle pour mondialiser la diversité culturelle de l'Indonésie, qui est tolérante, démocratique et moderne, mais respecte toujours l'art et la culture. Qui sera mis en évidence dans le festival Europalia et l'exposition Archipel. Lors d'une conférence de presse tenue au Musée national de Jakarta, mardi le 11 juillet 2017, le membre de l'équipe d'experts Europalia, Singgih Trisulistiono, a dit que l'Indonésie était connue en tant que nation maritime. Les produits culturels maritimes qui ont une valeur artistique sont présentés dans l'exposition de l'archipel et emballés dans le contexte de l'histoire et de la culture maritime.
Memang Indonesia ini kan sebagai satu bangsa yang mungkin tidak ada duanya di dunia. Artinya sejak awal memang bangsa Indonesia itu
Depuis sa création, l'Indonésie est une nation maritime. La diaspora ou migration des ancêtres austronésiens de la partie continentale d'Asie du Sud ont utilisé le bateau à balancier, puis répartis en Indonésie et aussi au monde. La diaspora des ancêtres d'Indonésie en 3000 avant Jésus-Christ est la plus spectaculaire du monde. Selon Singgih Trisulistiono, l'exposition de l'archipel montre la culture maritime indonésienne, la technologie de la construction navale, la connaissance de la navigation et une variété de traditions. Les objets qui sont exposés représenteront les quatre périodes de l'histoire en Indonésie. Les produits culturels exposés comprennent la statue Ganesha, le bateau Padewakan. Presque tous les produits de l'art et de la culture indonésienne sont les produits de l'essence où il montrait que l'Indonésie est un pays ouvert au monde extérieur. Le forum du roi, du sultan, du datu et de la reine tiendra la 5e réunion nationale au Silatnas des rois et des sultans à Jakarta les 27 et 28 juillet 2017 qui sera ouverte par le vice-président du Parlement, Fadli Zon. La 5e Silatnas de 2017 sera suivie par descendants de rois, sultans, datu, reines, y compris l'héritière et les successeurs des royaumes et des sultanats, les familles de noblesse internationale de Miami, de Floride, de l'Allemagne, de la Russie et de la Corée. Le secrétaire général de Silatnas, Upu Latu M.L. Beni Ahmad Samusamu, a déclaré mardi que la réunion vise à restaurer l'identité du roi et du sultan de l'archipel. En outre, selon lui, Silatnas est également un élan important pour unir les rois et sultans en Indonésie. Silatnas vise à unir les rois, les sultans, les datu et les reines, y compris les héritières et les successeurs. Upu Latu M.L. Beni Ahmad Samusamu a ajouté que l'un des programmes de 5e Silatnas était d'élire le prochain secrétaire général de Silatnas pour la période 2017-2022. La réunion déclarera également un forum unique pour le roi, le sultan, le datu et la reine d'Indonésie. À cette occasion, la réunion servira également les points de vue de plusieurs rois et sultans, y compris Sri Sultan Hamengkubuwono X. Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, PUPR, Basuki Hadimulyono, et le ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications de la République démocratique du Timor-Leste, Enggas tahu Francisco de Sousa ang signé ang protocole de coopération dans le domaine des travaux publics, du logement et du développement urbain et régional. Une telle coopération est en suivi de la visite au président du Corridodo au Timor-Oriental en janvier 2016 qui réaffirme l'engagement de l'Indonésie en tant que partenaire clé dans le développement du Timor-Oriental ainsi que dans l'intensification de la coopération dans divers domaines. La coopération entre les deux pays est une forme de l'engagement de l'Indonésie pour intensifier la coopération sud-sud et triangulaire qui est devenue l'un des agendas de Nawacita et a été répertoriée comme l'une des priorités du développement national dans RPJMN 2015-2019. Le protocole d'entente signé est une extension de l'accord de coopération entre les deux ministères qui a été mis en œuvre depuis 2011 et suivi d'une réunion le 10 avril 2015 qui a convenu la nécessité de l'amendement du protocole d'accord en élargissant la portée de la coopération. Le ministre Basuki a déclaré que le nouveau protocole d'accord a accueilli quelques changements, entre autres la nouvelle nomenclature du ministère des deux pays ainsi que l'élargissement de la portée de coopération dans le domaine du logement et du développement de la zone. Pendant ce temps, le ministre Enggas Tahu Francisco de Sousa a déclaré que l'expansion de la coopération en ajoutant le secteur du logement et du développement de la région et de la ville est très importante pour le Timor-Leste. Serviteur, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, voici donc le commentaire et pour le titre, la conférence ministérielle de l'OCI en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, un pays en Afrique de l'Ouest, était l'hôte de la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique OCI qui a eu lieu les 10 et 11 juillet 2017 dans la ville d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Le thème de cette conférence est la jeunesse, la paix et le développement dans un monde de solidarité. Pourquoi ce thème a discuté dans cette conférence? Les membres de l'OCI ont convenu que le rôle des jeunes est très important pour faire face aux défis du monde d'aujourd'hui et à l'avenir, tels que la menace de l'extrémisme dans divers États, le terrorisme et le radicalisme. Que faut-il faire pour que les jeunes ne soient pas coincés sur les choses qui détruisent l'avenir de la civilisation humaine? L'éducation est considérée comme la solution pour lutter contre ces trois questions, soutenue par l'enseignement sur les valeurs de tolérance, le respect mutuel et l'appréciation de la paix. En outre, la 44e conférence ministérielle de l'Organisation de la coopération islamique a discuté de la question de la Palestine, le programme d'action de l'OCI en 2025, la minorité musulmane, les droits de l'homme et humanitaires, ainsi que le commerce et la technologie de l'information. La conférence ministérielle de l'OCI est le forum annuel des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'OCI pour évaluer les progrès dans la mise en œuvre de la politique énoncée dans le sommet des chefs d'État membres. Dans cette conférence, l'Indonésie a soulevé la question du groupe de contact sur la paix et la résolution des conflits. L'Indonésie utilise ce forum pour encourager l'achèvement de différents conflits, en particulier au Moyen-Orient. La solution qui a été proposée par l'Indonésie dans ce forum est d'encourager les pays membres de l'OCI d'unir et d'offrir le dialogue pour résoudre le problème au Moyen-Orient, y compris d'encourager la coopération pour résoudre le problème. Nous souhaitons que la proposition indonésienne puisse être réalisée sous la forme d'une résolution de règlement du problème. Nous ne voulons pas que cette réunion soit seulement une variété de récits et le discours qui ne contribue pas à la solution pour lutter contre le terrorisme, la diminution du niveau de radicalisme et de l'extrémisme. Serviteur, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Serviteur, nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Le jour de la coopérative nationale le 12 juillet 1947. La coopérative était introduite en Indonésie par R. Arya Wiryatmaja à Purwokerto, Jawa Central en 1896. Il a établi une coopérative de crédit dans le but d'aider les gens qui ont des dettes avec les usurières. La coopérative se développe bien et finalement imitée par Budi Utomo et syndicat de commerce islamique. En 1942, le Japon a occupé l'Indonésie et a fondé la coopérative Kumiai. Après l'indépendance de l'Indonésie, le 12 juillet 1947, le mouvement coopératif en Indonésie a tenu le premier congrès coopératif à Tasikmalaya et a désigné comme la journée des coopératives de l'Indonésie. Le but de la création de coopératives en Indonésie est pour le bien-être de ses membres. Notre information est sur le monument national où Monas est officiellement ouverte au public le 12 juillet 1975. Le monument national qui est populairement appelé Monas est le monument commémoratif avec la hauteur de 132 mètres érigé à la mémoire de la résistance et de la lutte du peuple indonésien pour gagner l'indépendance de la domination coloniale néerlandaise. La construction du monument a commencé le 17 août 1961 sous les ordres du président Sukarno et ouverte au public le 12 juillet 1975. Ce monument est couronné de flammes recouvertes de feuilles d'or symbolisant l'esprit combatif ardent. Le monument national est situé au milieu du champ de Medan Merdeka, Jakarta Central. Le monument et le musée sont ouverts tous les jours. Serviteur, nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement la destruction initiale de l'Union soviétique le 12 juillet 1990. Il y a exactement 27 ans, Boris Yeltsin a choisi à démissionner du Parti communiste de l'Union soviétique. La démission d'Yeltsin était en reverse désastreuse, parce que après sa démission, la destruction du pays superpuissance a commencé. Le début de sa démission du Parti communiste et la réélection de Mikhail Gorbatchev en tant que chef du parti qu'en fait conduit directement l'Union soviétique. En ces jours-là, la montée à nouveau de Gorbatchev n'est pas seulement refusée par Yeltsin, mais la critique est venue aussi des sympathisants de la ligne du Parti communiste. La critique des cadres du Parti communiste et d'Yeltsin à Gorbatchev est différente. Yeltsin voulait la démocratie totale et sans le système communiste soviétique aux multipartis. Pendant ce temps, les sympathisants de la ligne dure rejettent Gorbatchev en raison de mauvaises politiques et économies. Sur la base des attaques, Gorbatchev a finalement choisi de démissionner de ses fonctions. En décembre 1991, Gorbatchev a quitté formellement à la présidence. Automatique, peu après l'annonce de sa démission, l'Union soviétique a officiellement dissous. Après l'effondrement de l'Union soviétique, Boris Yeltsin a été élu le premier président de la Russie du 10 juillet 1991 au 31 décembre 1999. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Merci d'écouter la Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter la mise au point sur l'environnement et pour le titre. Le Comité du patrimoine mondial préserve la forêt tropicale humide de Sumatra dans la liste du patrimoine mondial en péril. La 41e session du Comité du patrimoine mondial a sorti une décision de maintenir le patrimoine des forêts tropicales de Sumatra sur la liste du patrimoine mondial en péril. Cette décision était déterminée parce que les forêts tropicales qui sont importantes au monde sont toujours menacées. Le fondateur et directeur du Centre de l'information d'orang-outan, Panut Hadi Siswono, dans une déclaration écrite reçue par Antara à Jakarta, a déclaré que le Comité du patrimoine mondial s'assure la nécessité de prendre des mesures décisives pour lutter contre la menace qui font maintenant face à la forêt tropicale du patrimoine mondial. Panut Hadi Siswono a dit qu'il était très reconnaissant de l'attitude du Comité de maintenir un site du patrimoine mondial les forêts tropicales de Sumatra sur la liste du patrimoine mondial en péril, car la destruction à cause des activités illégales se poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Panut, qui est devenu un porte-parole de la société civile lors de la réunion du Comité du patrimoine mondial, a également salué la déclaration du gouvernement indonésien pour supprimer le plan de développement du projet géothermique dans la région des sites du patrimoine mondial. Par conséquent, il est prêt à coopérer pour protéger la forêt tropicale avec le développement alternatif pour que l'écosystème de l'Eucer est toujours maintenu tout en garantissant l'intégrité d'un site du patrimoine mondial. La forêt tropicale de Sumatra déposée par le gouvernement indonésien comme un site du patrimoine mondial est fixée en 2004. Le patrimoine des forêts tropicales humides de Sumatra, la forêt tropicale de plaine et les tourbières autour d'écosystèmes de l'Eucer est le seul endroit sur la Terre où il y a des orang-outans, rhinocéros, tigres et les éléphants de Sumatra dedans qui vivent ensemble dans la nature. En outre, la région est également la source d'eau et une importante source de revenus pour des millions de personnes. En 2011, cette zone a été incluse dans la liste du patrimoine mondial en péril en raison de l'activité de la déforestation, le braconnage, l'expansion du palmier à huile et la fragmentation de la forêt tropicale intacte pour une nouvelle route. Depuis ce moment, d'autres menaces émergent, y compris la planification handicapée d'Aceh. les plans d'aménagement de construire 3 barrages hydroélectriques et des projets géothermiques dans la région de Kapi qui pourraient détruire le cœur des forêts tropicales du site du patrimoine mondial. La 41e session du Comité du patrimoine mondial formée par l'UNESCO a eu lieu à Cracovie en Pologne du 2 jusqu'au 12 juillet 2017. Environ un millier de participants ont assisté à la session. Le conférencier d'honneur lors de la session comprend le directeur général de l'UNESCO, Irina Bokova, président du conseil exécutif de l'UNESCO, Michael Wurps, maire de Cracovie, Jacek Maciekowski, et président du comité du patrimoine mondial, Jacek Purshla. Chers auditeurs, c'était la mise au point pour ce soir. La ministre de la Santé, Nila Moulouk, a encouragé les gens à donner du sang. C'est ce qu'a affirmé la ministre Nila Moulouk dans son discours lors de la commémoration de la Journée mondiale du don de sang 2017 avec le thème « Donne du sang, donne maintenant, donne souvent » mardi à Jakarta. La ministre Nila Moulouk a souligné l'importance d'éduquer les gens sur l'importance du sang pour la vie des gens.
Darah ini bukan suatu bahan yang bisa kita buat. Ini adalah suatu
le sang n'est pas un matériau que nous pouvons fabriquer. C'est un matériau biologique produit par notre propre corps. C'est le problème, rien ne peut faire du sang. Et c'est le sang que nous avons besoin. Nous remercions les donateurs. Deuxièmement, nous sensibilisons le public à l'importance d'être un donateur. Ces deux points peuvent être dignes de notre appréciation dans la commémoration des donneurs de sang. Selon la norme de l'Organisation mondiale de la santé, la demande minimale de sang en Indonésie est d'environ 5,1 millions de sacs de sang par an, soit environ 2% de la population d'Indonésie. Bien que la production de sang et ses composants atteignent actuellement 4,1 millions de sacs de 3,4 millions de dons, 90% du montant provient du don volontaire. En ce qui concerne cela, la ministre de la Santé, Nila Moulouk, a expliqué que le gouvernement a mis en place un programme de coopération entre le Centre de santé communautaire ou Puskesmas, l'unité de transfusion sanguine, UTD, et l'hôpital dans le service de sang afin de réduire le taux de mortalité maternelle. Le programme a été mis en place pour assurer la disponibilité d'un sang suffisant pour les femmes enceintes et l'accouchement. À l'heure actuelle, 2394 centres de santé communautaire dans 123 bureaux de santé de résidence et de ville ont signé un protocole d'entente avec UTD et l'hôpital. Le personnel spécial du ministère des Affaires multiculturelles du ministère indonésien du Tourisme, Hari Untoro Drajat, mardi à Jakarta, a déclaré qu'il y avait maintenant un changement dans l'intérêt des touristes étrangers de venir en Indonésie par rapport à l'époque coloniale. Selon lui, le changement est actuellement influencé par le fort potentiel culturel offert par l'Indonésie aux gens internationaux, de sorte que le tourisme est bien le grand facteur qui contribue à l'intérêt élevé des étrangers de venir en Indonésie.
Car la pariwisata adalah promosi ke depan. Nah, promosi kita apa? Tentu bukan hanya fisik.
Parce que le tourisme est une promotion à venir. Quelle est notre promotion? Certainement pas seulement physique, mais la valeur. Il existe un événement existant. Il y a trois choses dans le tourisme, à savoir l'attrait de l'attraction et l'accessibilité, les attractions et commodités, bâtiments patrimoniaux qui sont devenus une attraction touristique. Les gens venaient en Indonésie pour nos épices, mais maintenant 60% de leur présence en région du tourisme, du palais et de la culture existante. Sur la base des données du ministère du Tourisme, le plus grand secteur du tourisme était basé sur le potentiel culturel, suivi de la beauté naturelle et des richesses naturelles. Le potentiel culturel actuellement a été développé au tourisme du patrimoine culturel et historique, le tourisme religieux, les magasins et le tourisme culinaire, le tourisme de ville et de village. En outre, le potentiel naturel a été développé aux produits du tourisme marin, l'écologie et le tourisme d'aventure. Pendant ce temps, le tourisme artistique et culturel a été développé dans le tourisme de maïs ou par la mise en œuvre du forum et d'exposition internationale, le sport et le tourisme intégré. L'Indonésie est le pays invité au festival culturel et artistique prestigieux au festival Europalia qui aura lieu du 10 octobre 2017 au 21 janvier 2018 dans les 8 pays européens. Ce festival devient un espace de diplomatie culturelle pour mondialiser la diversité culturelle de l'Indonésie qui est tolérante, démocratique et moderne mais respecte toujours l'art et la culture. Qui sera mis en évidence dans le festival Europalia et l'exposition Archipel. Lors d'une conférence de presse tenue au Musée national de Jakarta, mardi le 11 juillet 2017, le membre de l'équipe d'experts Europalia, Singgih Trisulistiono, a dit que l'Indonésie était connue en tant que nation maritime. Les produits culturels maritimes qui ont une valeur artistique sont présentés dans l'exposition de l'archipel et emballés dans le contexte de l'histoire et de la culture maritime.
Memang Indonesia ini kan sebagai satu bangsa yang mungkin tidak ada duanya di dunia. Artinya sejak awal memang bangsa Indonesia itu
Depuis sa création, l'Indonésie est une nation maritime. La diaspora ou migration des ancêtres austronésiens de la partie continentale d'Asie du Sud ont utilisé le bateau à balancier, puis réparti en Indonésie et aussi au monde. La diaspora des ancêtres d'Indonésie en 3000 avant Jésus-Christ est la plus spectaculaire du monde. Selon Singgih Trisulistiono, l'exposition de l'archipel montre la culture maritime indonésienne, la technologie de la construction navale, la connaissance de la navigation et une variété de traditions. Les objets qui sont exposés représenteront les quatre périodes de l'histoire indonésie. Les produits culturels exposés comprennent la statue Ganesha, le bateau Padewakan. Presque tous les produits de l'art et de la culture indonésie sont les produits de l'essence où il montrait que l'Indonésie est un pays ouvert au monde extérieur. Le forum du roi, du sultan, du datu et de la reine tiendra la 5e réunion nationale au Silatnas des rois et des sultans à Jakarta les 27 et 28 juillet 2017 qui sera ouverte par le vice-président du Parlement, Fadli Zon. La 5e Silatnas de 2017 sera suivie par des sangs de rois, sultans, datu, reines, y compris l'héritière et les successeurs des royaumes et des sultanats, les familles de noblesse internationale de Miami, de Floride, de l'Allemagne, de la Russie et de la Corée. Le secrétaire général de Silatnas, Upu Latu M.L. Beni Ahmad Samusamu, a déclaré mardi que la réunion vise à restaurer l'identité du roi et du sultan de l'archipel. En outre, selon lui, Silatnas est également un élan important pour unir les rois et sultans indonésiens. Silatnas vise à unir les rois, les sultans, les datu et les reines, y compris les héritières et les successeurs. Upu Latu M.L. Beni Ahmad Samusamu a ajouté que l'un des programmes de 5e Silatnas était d'élire le prochain secrétaire général de Silatnas pour la période 2017-2022. La réunion déclarera également un forum unique pour le roi, le sultan, le datu et la reine d'Indonésie. À cette occasion, la réunion servira également les points de vue de plusieurs rois et sultans, y compris Sri Sultan Hamengkubuwono X. Le ministre indonésien des Travaux publics et du Logement, PUPR, Basuki Hadimulyono, et le ministre des Travaux publics, des Transports et des Communications de la République démocratique du Timor-Leste, Engastau Francisco de Sousa, ont signé un protocole de coopération dans le domaine des travaux publics, du logement et du développement urbain et régional. Une telle coopération est en suivi de la visite au président Joko Widodo au Timor-Oriental en janvier 2016 qui réaffirme l'engagement de l'Indonésie en tant que partenaire clé dans le développement du Timor-Oriental ainsi que dans l'intensification de la coopération dans divers domaines. La coopération entre les deux pays est une forme de l'engagement de l'Indonésie pour intensifier la coopération sud-sud et triangulaire qui est devenue l'un des agendas de Nawacita et a été répertoriée comme l'une des priorités du développement national dans RPJMN 2015-2019. Le protocole d'entente signé est une extension de l'accord de coopération entre les deux ministères qui était mis en œuvre depuis 2011 et suivi d'une réunion le 10 avril 2015 qui a convenu la nécessité de l'amendement du protocole d'accord en élargissant la portée de la coopération. Le ministre Basuki a déclaré que le nouveau protocole d'accord a accueilli quelques changements, entre autres la nouvelle nomenclature du ministère des deux pays ainsi que l'élargissement de la portée de coopération dans le domaine du logement et du développement de la zone. Pendant ce temps, le ministre Engastau Francisco de Sousa a déclaré que l'expansion de la coopération en ajoutant le secteur du logement et du développement de la région et de la ville est très importante pour le Timor-Leste. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Serviteur, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tour de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la Voix de l'Indonésie. Voici la rubrique magazine culturel. Cette fois, nous allons vous inviter au canyon de Célèbre dans la province de Sulawesi du Sud. Alors, restez avec nous sur la Voix de l'Indonésie, le service international de la RRI. Outre par les zones courtes, vous pouvez également écouter notre émission sur www.vo.co.id ou à travers sur RRI Play sur votre téléphone intelligent. Serritar, maintenant Sulawesi du Sud a un nouvel objet touristique populaire. La falaise rocheuse combinée à un flux fluvial est l'attraction principale de cette destination touristique. Cet objet touristique est situé dans la résidence de Baru. La population locale l'appelle la forteresse de Murung, mais elle est plus populaire auprès du nom Canyon de Célèbre. Le canyon de Celeb est un objet touristique qui présente la beauté de la nature du sud de Sulawesi. Plutôt, cet endroit n'était pas très populaire parce que peu de touristes sont venus au canyon. Mais maintenant, le canyon de Celeb devient une destination populaire car les touristes qui ont visité cet endroit télésagent souvent la beauté du canyon de Celeb à travers les médias sociaux. Ici, ils peuvent profiter d'une cascade qui est décorée de roses exotiques autour de la région. En outre, à cet endroit, les touristes peuvent également installer une tente pour profiter du ciel de nuit et le bruit des gargouilles d'eau. Le canyon de Celeb n'est pas entièrement ouvert pour être la destination touristique. Pour cette raison, il n'y a pas d'installation comme les toilettes et les restaurants. Donc, si vous voulez visiter cet endroit, apportez vos propres aliments et boissons. Et n'oubliez pas de ramener vos ordures, car à l'emplacement de l'objet touristique, il n'y a pas encore les poubelles. Chers auditeurs, le canyon de Celeb est situé dans le village de Liburang, la sous-communauté de Taneteriaja, la résidence de Baru, la province du sud de Sulawesi. C'est facile de visiter cette destination touristique. De la ville de Makassar à la résidence de Baru, le visiteur passe à la résidence de Maros. Ensuite, le voyage se poursuit à la résidence de Baru à travers de la rue Pangkajene jusqu'à la sous-communauté de Taneteriaja, le village de Liburang. En arrivant au village de Liburang, il y a un panneau de signalisation à l'endroit. Chers auditeurs, c'était le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Le canyon de Celeb dans la province de Sulawesi du Sud ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Comprendre et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Bonsoir, chers amis, bienvenue dans la rubrique Apprendre l'indonésien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un sujet intitulé Kamu mau kemana? Ou en français, Où vas-tu? Comme d'habitude, je vais vous présenter le vocabulaire et les expressions qui se rapportent au thème de conversation aujourd'hui. Pergi ke mana? Pergi ke mana? En français, où aller? Selamat malam. Selamat malam. En français, bonsoir. Bagaimana? Bagaimana? En français, comment? Kabar. Kabar. En français, nouvelle. Hari ini. Hari ini. En français, aujourd'hui. Sangat baik. Sangat baik. En français, très bon ou très bon. Melihat. Melihat. En français, voir. Kalau begitu. Kalau begitu. En français, donc. Kita sama-sama pergi. Kita sama-sama pergi. En français, nous allons ensemble. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. En français, c'est une bonne idée. Chers amis, maintenant, je vais vous donner un exemple d'une conversation intitulée « Kamu mau kemana ?» ou en français « Où vas-tu ?» La conversation entre Mary A et Nita B au bureau. A. Selamat malam, Lucy. Selamat malam, Lucy. En français, bonsoir, Lucy. Bagaimana kabar kamu hari ini? Bagaimana kabar kamu hari ini? En français, comment allez-vous aujourd'hui? B. Sangat baik. Dan kamu? Sangat baik. Dan kamu? En français, très bien. Et toi? A. Saya juga. Saya baik-baik saja. Terima kasih. Saya juga. Saya baik-baik saja. Terima kasih. En français, moi aussi, je vais bien. Merci. B. Kamu hendak pergi ke mana? Kamu hendak pergi ke mana? En français, où veux-tu aller? A. Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik. Saya ingin ke Taman Ismail Marzuki melihat drama klasik. En français, je veux aller à Taman Ismail Marzuki pour voir le théâtre classique. B. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke sana. Kalau begitu, mari kita sama-sama pergi ke sana. En français, donc allons-y ensemble. A. Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. En français, c'est une bonne idée. Chers amis, c'était la rubrique Apprendre l'Indonésien de la Voix de l'Indonésie pour ce soir. Merci à tous et à bientôt.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère qu'il est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.co.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Dans cette édition, nous allons vous présenter une jeune chanteuse nommée Dewi Sandra. Voici la chanson de Dewi Sandra intitulée « Tak Ingin Lagi ». Bonne écoute. La chanson intitulée « Tak Ingin Lagi » raconte une fille qui décide de quitter son amant qui a manqué à la promesse à plusieurs reprises. C'était la parole de la chanson de Dewi Sandra qui a sorti en 2000. Le deuxième album de Dewi Sandra a le genre R&B comme l'album précédent. Cette chanson a remporté le prix d'Ami pour le meilleur album R&B en 2021. Une chanteuse sans langue britannique indonésie a commencé sa carrière dans le monde du divertissement comme un modèle à l'âge adolescent. en plus de chanter, devait également essayer sa capacité en tant que présentatrice. Sa capacité à diriger le programme Clear Top 10 a remporté le prix de musique de Panasonic comme female favorite pendant 5 années consécutives de 1999 à 2003. Bon, Sergiteur, écoutons maintenant la deuxième chanson de Dewi Sandra intitulée « Aku Pulang ». Bonne écoute. C'est notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésia, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie, de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4S5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta, 10011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.